Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauché.
19h19 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la documentariste Rokhaya Diallo. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Marc-Olivier.
Avec le directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir Guillaume Roquette.
Bonsoir.
Et avec le journaliste Jean-Louis Burga. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir.
On va évidemment parler des gilets jaunes dans un instant. Avant d'en débattre tous ensemble, on prend la direction du plateau de LCI ce soir à 20h45 en partenariat avec RTL et le Figaro. David Pujadas présentera La Grande Explication, compagnie d'Yves Tréhard. Bonsoir David Pujadas.
Bonsoir Marco, avec Yves Tréhard et en partenariat avec RTL bien sûr.
Ce que je viens de dire, évidemment. J'allais quand même pas ne pas citer RTL, David. Pour la première fois, des gilets jaunes feront face à une membre du gouvernement. On va y venir dans un instant dans notre débat à nous.
Deux membres du gouvernement, parce qu'il y aura un ministre de plein exercice et la secrétaire d'État à l'écologie, Emmanuelle Wargon, et... Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement.
8 Français sur 10 ne sont pas convaincus par les annonces de l'exécutif. Ce soir, un face-à-face, ça risque d'être tendu ?
Alors tendu, je ne sais pas, mais franc, totalement libre, que tout soit mis sur la table, qu'on parle de tout, sans esquive, sans tabou. Tendu, c'est possible, parce que la situation est tendue de fait en France. Donc ce genre d'émission a pour objectif d'être une sorte de catharsis et de permettre à tout, encore une fois, d'être discuté. C'est, vous l'avez dit, un dialogue inédit. Il n'a jamais eu lieu. C'est la première fois sur un plateau de télé.
Il n'était plus que 7000 gilets jaunes partout en France aujourd'hui, David Pujadas. Le malaise français est là, la crise française est là. Mais finalement, le mouvement, c'est un peu normal, s'essouffle. Est-ce qu'à un moment donné, malgré tout, il n'y a pas de responsabilité ? On va en débattre, nous, dans un instant, sur le plateau dont refait le monde, des journalistes et peut-être des chaînes d'infos, d'être en boucle sur un malaise, mais aussi sur un mouvement en lui donnant peut-être plus d'importance qu'il n'a.
Mais c'est une vraie question, vous avez raison de la poser. C'est toujours bon de s'interroger sur le métier, sur notre travail. C'est vrai qu'au départ, notamment, on a été une grande chambre d'écho à ce mouvement. Mais vous savez pourquoi ? Vous l'avez dit vous-même. Parce que 7 Français sur 10 le soutiennent. Donc on a l'impression qu'il y a un mouvement aussi par procuration et que les blocages... Le nombre de gilets jaunes sur la voie publique peut diminuer, mais que le soutien des Français qui s'y retrouvent, qui se retrouvent dans ce combat, lui, il est toujours très fort.
Mais est-ce que finalement, on n'entretient pas aussi ce mouvement, même si, évidemment, encore une fois, le malaise est là. Hein, le malaise, il est perceptible. Ici, on voit bien au standard de RTL les gens qui nous appellent, les gens qui travaillent et qui n'arrivent pas malgré tout à vivre. Ça, c'est une réalité du pays. Mais finalement, ces gilets jaunes, est-ce qu'en leur donnant toute cette place-là, on n'entretient pas le mouvement les uns et les autres ?
C'est une éternelle question à propos des médias et il faut à un moment donné, c'est vrai, considérer les choses. On est sur un fil entre ne pas entretenir quelque chose parce qu'on lui donne une visibilité médiatique très grande et en même temps, que dirait-on si nous faisions pas l'écho de cette France périphérique, comme on dit, de cette France qu'on a souvent dit invisible et qui, pour une fois, trouve... un moyen de s'exprimer politiquement, au sens large du terme, bien sûr.
En tout cas, elle s'exprime ce soir chez vous, sur LCI, avec RTL et Le Figaro. Donc, des gilets jaunes face à 2 membres du gouvernement. Tout à l'heure, David.
Et avec aussi des Français qui ne sont pas d'accord. C'est toute la France qui sera là. Il y aura des chefs d'entreprise, il y aura des commerçants. Ce que vous dites, Marco, sur ceux qui pensent qu'on donne trop d'écho à ce mouvement, ils seront là aussi et ils pourront s'exprimer. Bref, ce sera un échange total. Et encore une fois, la France entière sera là, d'une certaine manière.
À tout à l'heure, David. Merci beaucoup.
Canal 26.
Ouais, il faut le rappeler. C'est vrai que LCI, il faut le trouver encore aujourd'hui. Merci à vous. Merci, David.
Bonjour à vos invités.
Eh ben, ils vous écoutent.
Bonjour, David.
Vous entendez Patrick Poivre d'Arvor qui connaît bien la maison. On va débattre de ça, finalement, des médias, des gilets jaunes et évidemment des 8 Français sur 10 qui ne sont pas convaincus donc des annonces de l'exécutif. D'abord, sur les réseaux sociaux, les gens, justement, les vrais. Benoît Galeret, ils disent quoi ?
Ben, ils disent que non, on n'en parle pas trop car, vu la réponse du gouvernement, c'est une bonne grosse grève générale qui se profile, promet Guillaume. Philippe aussi estime qu'il n'y a plus rien à attendre sinon de l'enfumage et des menaces. Mais Greg, lui, trouve qu'on en fait beaucoup. Les gilets jaunes, c'est comme la neige, dit-il. Ça bloque la circulation, c'est drôle au début, moins quand ça provoque des accidents. C'est globalement très blanc et BFM en raffole. La mobilisation reste justifiée, elle doit même s'amplifier, lâche Philippe Martinez, puisque, dit-il, la concertation à la Macron, c'est je vous reçois et je fais ce que je veux. Franck rétorque que si le président disait amen à tous ceux qui reçoivent, la France serait pas dirigée. Eh, 7000 gilets, une poignée d'égoïstes voulant dicter leur loi, lâche même Frédéric générique. Jean-Yves aussi soupire que les vraies difficultés de certains ne doivent pas occulter la démagogie minable des revendications de ce mouvement récupéré. Cyril Simon du Parisien même épluché les profils Facebook des porte-parole des Gilets jaunes avec leurs données laissées publiques pour trouver qu'ils sont très politisés et souvent anti-système de longue date. Référence à Nicolas Dupont-Aignan, Marion Maréchal, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, le CNT, un Conseil National de Transition, groupuscule complotiste. On trouve aussi un insoumis qui soutient Ruffin, Natacha Polony-Brocard. L'incapacité des mouvements politiques à comprendre ce qui se passe et la manifestation des Gilets jaunes, il serait temps, dit-elle, d'offrir un débouché démocratique à cette colère. Jean lui dit qu'il va mettre son gilet jaune pour la première fois le 1er décembre, puisque l'augmentation des taxes s'est maintenue, qu'il n'y aura pas de coup de pouce sur le SMIC et que les salaires des ministres ne seront pas baissés. Olive de soupirer pour finir. Bah au moins, pendant qu'ils bloquent les ronds-points, ils ne sont pas en train de tirer sur des vététistes.
Allez, Patrick Poirvoy-Darvor, pour démarrer déjà sur ces chaînes info, nous-mêmes, médias généralistes, qui faisons de la place évidemment à ce mouvement, est-ce qu'on n'en fait pas trop de place
Je ne sais pas si on en fait trop, en tout cas, on ne fait pas toujours bien. On ne fait pas toujours bien parce que les revendications des Gilets jaunes sont très intéressantes. Toutes ne se ressemblent pas, Benoît vient d'y faire allusion. C'est vrai que quand vous avez un porte-parole, entre guillemets, peut-être auto-proclamé, qui sort de sa première réunion et qui dit « on a demandé la suppression du Sénat », je pense qu'on est assez loin de la taxe sur les carburants. Ensuite, c'est intéressant parce que c'est une France périphérique, France invisible, disait David Pujadas, mais on aurait pu la voir un peu plus tôt, on aurait pu aller l'ausculter un peu plus tôt, plus intéressante. C'est pas une France
Si je peux me permettre, on a été l'ausculter, cette France-là, mais on n'imaginait pas qu'elle serait autant en colère. On la connaît, cette France, mais on ne pensait pas qu'elle allait se révolter
Pas tant que ça. D'ailleurs, regardez bien, c'est vrai, vous avez donné les chiffres ne sont pas impressionnants. Et je me souviens d'une chaîne d'information qui n'a pas si longtemps, il y a 4-5 un jour, qui disait « Combien serons-nous ?» entre guillemets, ajoutait-elle quand même, samedi prochain. Non, on n'a pas le droit de dire ça. On est journaliste, on doit dire combien seront-ils. Et ils n'ont pas été si nombreux, on peut le reconnaître aussi au passage, même si leurs revendications sont puissantes, intéressantes, et même si, de toute façon, le combat qu'ils ont mené, la révolte qu'ils ont menée, va durer très très longtemps dans le pays, même s'il y aura plus de gilets jaunes dans la rue dans les quelques jours à venir.
Effectivement, on n'a pas beaucoup raconté ces gens parce qu'ils sont inracontables. Ce sont pas les banlieues qui déboulent et qui font de la bagarre dans Paris. C'est autre chose. Mais moi, je suis assez inquiet avec un certain nombre de petits signaux. D'abord, je ne sais pas si vous avez vu sur cette étrange entrevue surréaliste entre François de Rugy hier soir et deux gilets jaunes avec des petits fours au milieu de la table. Il y en a un qui enregistrait. On était sur la planète Mars. Et puis tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose qui m'a encore plus inquiété. C'est un excellent papier d'un journaliste de chez vous sur les dessous de la préparation du discours d'Emmanuel Macron.
Olivier Bosc, qui nous racontait comment les arbitrages ont été rendus.
Et j'ai découvert qu'Emmanuel Macron, finalement, avait transformé son discours jusqu'à la dernière minute.
Comme il fait à chaque fois. Il pèse tout à chaque fois et puis il tranche au final.
Que tout ça avait été discuté avec de nombreuses personnes pendant longtemps. Et franchement, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a une ligne politique aujourd'hui au sein du gouvernement pour diriger la négociation, si négociation il y a ?
Oui, il y a une ligne politique, à mon avis, c'est celle de ne rien céder. C'est pour ça que...
D'ailleurs, et garder un cap. Écologique.
Je maintiens le cap, c'est toujours
et
le
c'est,
bon.
Et c'est, donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse toujours autant à ce sujet? C'est d'abord parce que le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour ça. Il y a une mesure absolument emblématique, cette hausse des taxes, cette nouvelle hausse attendue le 1er janvier, sur laquelle, apparemment, après avoir hésité longuement, le pouvoir ne veut pas revenir. On voit un Édouard Philippe droit dans ses bottes, on l'a encore entendu ce matin. Donc, effectivement, le bras de fer est plus fort que jamais. Donc, journalistiquement, c'est intéressant. Mm-hmm. En plus, pardon d'entrer un petit peu dans les coulisses du métier, mais ça fait de bonnes audiences. Ça veut dire que ça intéresse les gens. Sinon, les téléspectateurs et les auditeurs s'éloigneraient et arrêteraient de nous regarder et de nous écouter. Et puis, il y a ce point assez impressionnant qui est que...
Si je peux me permettre, ça fait des bonnes audiences, c'est vrai, ça fait même des audiences exemplaires, mais quand on regarde samedi ces Champs-Élysées avec des scènes de chaos, en fait, c'est un film qu'on regarde.
C'est un happening.
C'est un peu hypnotisant, mais est-ce que ça dit grand-chose?
Eh bien, dans ces cas-là, il y aurait l'audience sans l'adhésion. Le Figaro peut-être. Sort un nouveau sondage demain qui montre que 84% des Français soutiennent le mouvement.
D'accord.
C'est 7 L'adhésion, points de plus que la semaine dernière. Ça veut encore un ou deux discours.
Ni les discours.
Mais voilà,
ni
à la limite, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Castaner, Griveaux disent on ne bouge pas, c'est comme ça. Et plus le soutien au mouvement arrive, ça dit quelque chose, à mon avis, d'important.
Et en même temps, quand vous dites plus ils disent on ne bouge pas, c'est comme ça. C'est pas non plus la réalité, puisque hier, ils ne reculent pas complètement, mais il y a cette taxe qui sera quand même variable en fonction de la hausse du prix. Ils bougent malgré tout, mais on n'entend pas qu'ils bougent.
On la reverra tous les trimestres.
On n'entend pas qu'ils bougent parce qu'ils veulent dire qu'ils ne bougent pas.
Mais ils bougent quand même.
Non, mais c'est de leur faute aussi. Ils disent on ouvre le dialogue, on nous explique qu'il va durer 3 mois. Tout ça est quand même pas très décisionnaire.
On y revient dans un instant avec Rokhaya.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauché.
Avec Patrick Poivre d'Arvor, Guillaume Roquette, Jean-Luc Bourguet et vous, Rokhaya Diallo. Donc, les gilets jaunes et la place qu'on leur donne dans les médias.
Je crois que ce qui se passe actuellement est important. Je pense que personne autour de la table ne dira le contraire. C'est la traduction d'un malaise très profond, d'un sentiment d'injustice qu'on peut considérer comme étant justifié. Et c'est important de montrer une partie de la France qu'on ne voit jamais, d'autant plus que la parole publique est capturée par une partie de la population qui est particulièrement privilégiée. Donc je trouve que ce qu'on voit aujourd'hui est intéressant. Maintenant, c'est comment on le montre. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui s'est passé samedi sur les Champs-Élysées, on avait, avant même que les gens ne se réunissent, dans certains ont commis des brutalités, une anticipation extrêmement importante de la part des médias, des plusieurs équipes assez nombreuses dépêchées sur place avant même qu'il se passe quelque chose. Je trouve que ça accentue un aspect des mobilisations qui n'est pas forcément l'aspect le plus intéressant, parce qu'on va, en réalité, ce qui nous surgit aujourd'hui au visage, c'est vraiment une France qui est oubliée, à laquelle on ne donne jamais la parole. Et moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est le décalage qui peut exister entre la parole publique, enfin ce qui finalement est autorisé à se saisir de l'espace public et qui ne le fait jamais et aujourd'hui a décidé de le faire. Et puis je note quand même parce que moi samedi j'étais pas gilet jaune mais j'étais foulard violet avec les femmes qui ont marché contre la violence faite aux femmes. On en a pas beaucoup parlé. Enfin c'est une marche qui l'année dernière n'a réuni que 2000 personnes.
Il y en avait 12 000 hein, c'est ça.
Et cette année il y en avait.
Je crois avoir vu ça.
Moi j'ai vu des chiffres qui en tout cas plusieurs dizaines de milliers sur tout le territoire. Il y avait plus de femmes.
Plus de violet que de jaune.
C'est ça. Clairement à Paris il y avait plus de femmes. Et effectivement c'est aussi l'expression d'un ras-le-bol par rapport à des violences qui sont extrêmement important. Donc là, dans ces cas-là, je trouve ça regrettable d'avoir vu en fait autant de personnes sur les Champs-Élysées pour montrer des scènes de chaos que des femmes qui avaient structuré une mobilisation qui était préparée de longue date et qui n'était malheureusement pas suffisamment visible. Donc non, je pense qu'il faut qu'on voit les gilets jaunes, mais il faut qu'on voit ce qu'il y a derrière, quelle France il y a derrière.
Mais une fois qu'on a vu cette France qu'il y a derrière, comment on répond à ces inquiétudes? Parce que on a bien compris que c'est pas simplement en modulant la taxe en fonction du prix des carburants que tous ces gens-là vont être satisfaits et vont boucler leur fin de mois.
D'abord, on ne peut pas répondre à toutes leurs demandes parce que le catalogue de revendications est tellement large que c'est absolument impossible. Il y a des demandes sur la fiscalité, il y a aussi des demandes sociales sur l'augmentation du SMIC, il y a des demandes effectivement...
Cette colère-là, elle sera jamais apaisée.
Si on donne le sentiment qu'elle est entendue. C'est pour ça que moi je ne comprends toujours pas pourquoi le gouvernement n'a pas décidé ce moratoire sur l'augmentation des taxes le 1er janvier prochain. C'était une façon de dire on vous a entendu. Et donc,
un symbole quoi.
Oui c'est ça, c'est un
Il
symbole.
Il a beaucoup hésité. Hein,
oui mais parce que les Français dans leur ensemble savent très bien qu'on peut pas tout obtenir.
Oui mais vous savez aussi Guillaume Roquette que finalement Emmanuel Macron s'il y a un argument qu'il plaide à chaque fois, c'est sa constance. Donc s'il s'arrête, c'est son argument principal qui est démonétisé.
Il y a un moment où cette constance devient de l'entêtement et où elle risque d'être contre-productive. On va quand même pas faire échouer le quinquennat sur une histoire de chaudière à fioul et de 5 centimes sur l'essence, alors qu'il reste d'énormes réformes à faire, comme celle des retraites. Et du coup, il va se retrouver fragilisé pour, à mon avis, un combat qui n'en vaut pas la peine.
Mais je suis désolé, cette constance, on ne la sent pas. On sent une sorte de valse-hésitation autour d'un certain nombre de décisions. Quand vous avez un porte-parole du gouvernement qui dit pas la même chose que son Premier ministre, et quand le Premier ministre annonce quelque chose qui est démenti par le Président de la République le soir, moi, ça m'inquiète. Vous savez, j'ai une sensation qui ressemble, on est deux autour de cette table à avoir vécu ça, j'ai une sensation de mai 68.
Deux, c'est vous et Patrick Poivre d'Arvor.
Patrick et moi, on est malheureusement les plus vieux. Bon, eh bien, vous savez ce qu'il y avait en mai 68? Il y avait une impossibilité à savoir ce que voulait l'entourage de De Gaulle. Était De Gaulle est parti. Il y avait une incapacité à comprendre ce qui se passait.
Ni le Premier ministre, ni le Président de la République.
Mais il y avait, tout d'un coup, il y a eu une sorte de volonté de compréhension de la part du pouvoir. C'est ça dont les manifestants ont besoin aujourd'hui. C'est que Macron change le climat. Une fois que le climat aura évolué, je pense que...
Vous n'avez pas entendu ce matin le Premier ministre sur BFM. Pour le coup, il a changé de ton hein, quand même.
Oui, il change de ton. Mmh. Mais il change de ton sous la pression.
Il est très concret.
Mais il change de ton sous la pression alors que leur image de marque, c'est la solidité. C'est contradictoire.
Allez, alors, pour conclure, Patrick.
Ce qui me paraît le plus important, c'est quand même... Bon, bien sûr, ils ont leur cap. Ils disent qu'ils maintiennent le cap. Mais surtout, c'est qu'ils entendent. Ils sont tous les deux de purs produits de l'énarchie, de Bercy, pour... Mmh. Le premier d'entre eux, Emmanuel Macron, il faut qu'ils inversent leur paradigme, qu'ils écoutent des gens qui ne peuvent pas réfléchir comme ils le font eux-mêmes et qui ne sont pas dans la même facilité que dans la vie, parce que l'un comme l'autre ont tout réussi. C'est pas le cas de la plupart des Français.
Et qui ne confondent pas une réforme avec une augmentation d'impôts. C'est pas la même chose.
Allez, un autre sujet dans un instant, les implant leaks, le monde qui attaque en justice pour qu'on lui communique des documents. Dans débat.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Faugier.
Avec Jean-Louis Burga, Rokhaya Diallo, Guillaume Roquette, Patrick Poivre d'Arvor à 19h40 sur RTL. C'était au cœur de l'été, la France adoptait une très polémique loi sur le secret des affaires. Quatre mois plus tard, le journal Le Monde saisit la justice administrative pour obtenir des documents d'intérêt public concernant le scandale des implants médicaux. On vous en parlait dans le journal de 19h. Le quotidien s'est vu refuser l'accès à des documents d'une des 58 sociétés commerciales européennes habilitées à contrôler les dispositifs médicaux. Alors, interdit par la commission d'accès aux documents administratifs. Est-ce que vous soutenez Le Monde ou pas? D'abord sur les réseaux sociaux, Benoît.
Beaucoup soutiennent, mais certains dénoncent un coup de pub du quotidien. Edoui Plenel ouvre le bal en tweetant que la récente loi sur le secret des affaires avait bien pour but de faire obstacle à la liberté d'informer. Dans une démocratie véritable, tout ce qui est d'intérêt général doit être public. Soutien de Mediapart au combat du Monde, dit-il. Drabe est d'accord, mais demande au journal de ne pas se tromper de cible. C'est pas politique, c'est pas le président de la République qui cache des infos, mais une administration qui a peut-être intérêt à ce qu'on regarde pas trop sous le tapis, dit-il. Tel estime lui, pour un tel audit, faut déjà avoir la compétence pour la faire, un mandat, avoir été désigné par une autorité, et non s'être auto-proclamé légitime dans le dossier. Mais enfin, la première mission d'un État, c'est de protéger ses citoyens. Là, on voit que les intérêts financiers passent avant la santé. Merci aux journalistes, rétorque Philippe. Oui, il est légitime que des entreprises se protègent contre l'espionnage économique ou les concurrents, mais il est inadmissible qu'elles le fassent, qu'elles se servent des lois, pardon, pour dissimuler leur défaillance et leur cupidité, dit Hergé. Olive n'en peut plus du pouvoir de nuisance des lobbyistes. Que faut-il faire pour reprendre la main démocratiquement? Déjà arrêter les opérations marketing de ce genre, tac Bulot, qui dit que notre démocratie présente déjà des institutions de vérification. Le journalisme n'en fait pas partie. Leur ligne éditoriale, leur attrait pour le sensationnalisme ne garantissent pas un rapport impartial. Mais Paul, pour finir, n'en démord pas. Cette affaire prouve qu'il fallait se battre contre la loi secret des affaires et que ce n'était pas juste un combat corporatiste des journalistes.
Rokhaya Diallo, avec les journalistes du Monde.
Oui, plutôt, je trouve que c'est assez inquiétant étant cette fin de non-recevoir qui a été opposée à la demande de la communication de documents administratifs, d'autant plus que l'instance reconnaît que ce sont des documents administratifs. La loi était censée protéger le secret des affaires, donc la divulgation de données confidentielles à des concurrents. Or, c'est un organisme qui ne fait que certifier en fait du matériel médical, donc il n'y a pas de données confidentielles. Simplement, ils utilisent une loi, ils détournent une loi qui était déjà très contestée pour simplement masquer des informations en plus qui sont disponibles dans d'autres pays européens par des organismes certificateurs équivalents. Donc là, on est vraiment dans une stratégie qui empêche les journalistes de faire leur travail, alors que ces documents devraient être disponibles pour tout le monde, puisqu'il s'agit en plus d'une question de santé publique. Donc moi, je trouve ça assez inquiétant, oui.
Vous partagez, Patrick ?
Oui, 100% derrière Le Monde, parce que on découvre à l'occasion d'ailleurs qu'il y a une commission d'accès aux documents administratifs qui, lorsqu'elle avait été mise sur l'autel public, avait été appréciée de tout le monde. Puis alors, en fait, ça sert à strictement rien, puisqu'on vous dit bah non, on peut pas vous montrer. Il y a une loi maintenant sur le secret des affaires. Non, ça n'a pas de sens. En plus, c'est pas politique. Je ne sais plus quel internaute le disait, mais c'est pas politique. C'est notre métier. Comment on peut avancer dans le maquis juridique et administratif de ce pays et faire simplement notre boulot. Or, on a découvert quand même dans cette enquête, parce qu'on pourrait parler d'essentiel, l'enquête montre quand même que sous le tapis, il y avait bien des cochonneries qui étaient cachées.
Ben pour moi, c'est une situation très intéressante et j'approuve bien entendu la plainte du Monde. D'autant que cette directive européenne qui date de 2016 est quasiment pas appliquée dans d'autres pays d'Europe. Alors c'est nous qui sommes censés trinquer. Moi, en cherchant des exemples, j'ai trouvé tout de même que Conforama a récemment réussi à faire retirer un article de l'hebdomadaire Challenge qui faisait état de ses difficultés financières. Donc il y a des exemples précis sur des atteintes. Même si en France, on peut dire que le droit de la presse est tout de même formidablement bien préservé.
C'est clair quand même.
Mais franchement, pour avoir vécu en Angleterre pendant 2 ans correspondant de TF1, j'avais l'impression d'être dans un monde qui était un peu plus trash, c'est sûr, mais beaucoup plus libre et beaucoup plus offensif. Et je sais pas, regardez les enquêtes de France 2, quand on voit
Élise Lucet
débarquer dans des entreprises et les patrons faire des gros yeux alors qu'elle a téléphoné 10 fois avant pour essayer d'avoir une interview, je trouve qu'on a des progrès à faire et je suis heureux de cette affaire, moi.
Guillaume Roquette, Le Figaro Magazine, derrière le Monde.
Oui, dans ce cas de figure, oui, parce que Rachel Diallo l'a très bien dit, le Monde demandait des informations à un organisme public, en plus un organisme certificateur avec un enjeu de santé publique. Mais la tradition de l'administration française en termes d'opacité est un truc inimaginable. Avant même cette loi sur le secret des affaires, il y avait d'autres lois qui imposaient à l'administration de communiquer ces données et elle le refuse. Par exemple, on n'a jamais réussi à avoir des statistiques claires sur ce qu'on appelle l'exil fiscal, c'est-à-dire le nombre de gens qui effectivement quittaient la France. Bercy disait toujours c'est très peu, mais on ne les a pas, ces éléments-là. En revanche, je ne pense pas qu'il faille pour autant balayer toute idée de secret, y compris de secret des affaires. C'est un peu gênant à dire, mais il y a effectivement des entreprises qui peuvent être fragilisées. La guerre économique, ça existe. Monsieur Carlos Ghosn pourrait vous en parler ces jours-ci. Et donc, qu'il y ait des moments où...
La transparence a des limites, quoi.
Oui, je pense que la transparence a des limites. Et par exemple, je pense qu'il y a des moments où l'administration, en l'occurrence celle de la justice, quand elle balance dans la presse des juges d'instruction des dossiers parce qu'ils ont envie de faire tomber quelqu'un, là, pour le coup, il n'est pas normal que les informations soient communiquées. Mais dans ce cas d'espèce, la procédure du Monde ne me choque pas.
Oui, en fait...
Sur la transparence qui a des limites, c'est un bon sujet, hein, parce qu'on est quand même dans l'ère de la transparence absolue et dans la défiance en permanente. Donc, à un moment donné, il faut bien des limites, quand même.
Il faut des limites, mais là, en l'occurrence, il s'agit... Revenons sur l'essentiel.
Santé publique,
donc, il s'agit d'une enquête sur les implants. Et on découvre qu'en effet, aux États-Unis, surtout, mais aussi en France, il y a un grand nombre de gens qui ne savent pas qu'on leur a installé des trucs qui sont vraiment vendus comme des articles d'électroménager. C'est quand même normal qu'on essaie de comprendre pourquoi, qui a certifié, à qui a autorisé, et est-ce qu'il ne faudrait pas modifier la loi? C'est pas si compliqué que ça, me semble-t-il.
Allez, dans un instant, on va débattre d'un dernier sujet, les Français qui n'osent pas prendre leur arrêt maladie. Mais cette info foot, vous savez que tout à l'heure à 21h, vous avez rendez-vous avec le match PSG-Liverpool. La composition Neymar et Mbappé titulaire avec Paris, Rabiot et remplaçant.
On refait le monde
dans RTL Soir
avec Marc-Olivier Fogiel.
À 19h49 avec Rocky Ayadalo, Guillaume Roquette, Patrick Poivre d'Arvor, Jean-Louis Burga. C'est un chiffre surprenant, bien loin des clichés sur les arrêts maladie qui coûtent cher et à l'absentéisme. Un salarié du privé sur 4 est allé travailler cette année alors qu'il était arrêté. 42% se sont vus prescrire au moins un arrêt au cours des 12 derniers mois. Mais 23% des prescriptions n'ont donc pas été respectées. C'est le résultat d'une étude réalisée par Malakoff Médéric auprès de 5000 salariés. La pression au travail est-elle trop forte? Vous l'expliquez comme ça, Guillaume Roquette, ce chiffre?
Pas seulement. Parce que l'année dernière, il se trouve que Malakoff Médéric avait fait la même enquête et ils avaient demandé aux gens qui ne prenaient pas leur arrêt de maladie pourquoi. Et ils ont répondu qu'il y en a un sur deux qui dit « mais parce que je ne veux pas me laisser aller, donc je considère que je peux aller travailler ». Alors oui, cette pression hiérarchique peut exister, mais elle était mise en avant par 22% des gens qui ne prenaient pas leur arrêt de maladie. Et puis, pour relativiser aussi, il faut dire que on cite ce chiffre de 23%, mais il y en a une partie qui prennent pas totalement leur arrêt de maladie. Parfois, ils considèrent qu'ils se remettent plus vite que ce qu'avait prévu le médecin, et donc ils vont au bureau. Je voudrais pas qu'on se serve de ce chiffre pour donner le sentiment que le monde du travail est une espèce de machine oppressante.
En même temps, notre reportage tout à l'heure dans le journal... installer un peu cette idée-là, et pourtant on y est allé avec un micro-note, j'allais dire.
Oui, mais parce que ça existe, mais il y a aussi les entreprises...
Notamment dans la restauration.
Il y a aussi les entreprises dans lesquelles les gens sont bien, et il y a aussi les entreprises dans lesquelles les gens sont payés au pourcentage, notamment dans la restauration, ce qui fait que les gens effectivement préfèrent ne pas prendre leur arrêt de maladie, parce que ça leur permet d'avoir leur part de variable qu'ils n'auraient pas s'ils avaient simplement l'indemnisation.
Moi, je pense que quand même, ça fait écho à une forme de pression. Ce qu'on note, effectivement, c'est que la plupart des personnes qui ne prennent pas l'intégralité de leur arrêt maladie sont des dirigeants d'entreprise. Donc ça, effectivement, on comprend que
les cadres,
beaucoup de choses reposent sur leurs épaules, une très grande pression, et les gens qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration, parce qu'on sait qu'une partie de leur travail sera répartie sur leurs collègues. Donc je pense qu'il y a une forme de culpabilité vis-à-vis aussi de leurs collègues. Et ce que dit aussi l'étude, c'est que la plupart des gens qui ne prenaient pas l'intégralité de leur congé maladie le regrettaient. C'est-à-dire qu'ils le regrettaient parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient moins productifs, que souvent ils mettaient plus de temps finalement à s'en remettre que prévu et qu'ils avaient des rechutes. Donc c'est une pression qui finalement coûte plus cher à tout le monde, y compris à l'entreprise, parce que c'est une vision à court terme qui ne permet pas vraiment aux gens de profiter de ce que les médecins ont prescrit. Parce que quand on prescrit un arrêt maladie, c'est qu'on a besoin de se reposer. Ça sert à rien de revenir.
Peut-être qu'il faudrait rééquilibrer un tout petit peu la pression entre le privé et le public, où là pour le coup il n'y en a vraiment pas beaucoup. Oui. Je rappelle juste pour mémoire que dans les collectivités territoriales, le taux d'arrêt de maladie est quasiment le double de celui du privé.
Est-ce qu'on a le droit de dire au passage justement que notamment dans ce domaine, il y a des arrêts maladie qui sont assez généreux, quoi. Voilà. Donc on peut comprendre que des cadres ou des chefs d'entreprise ne prennent pas de, voilà, ne suivent pas. Bon, moi je sais que quand je présentais le journal, jamais j'ai accepté, moi-même avec 42 fièvres. Bon, ça paraît assez naturel.
Bien
quoi.
Sûr,
bon,
y aller. Ouais. Il y a une responsabilité qui va avec. Quoi.
La pression, en effet, pour un certain nombre d'entre eux est devenue très très forte. Et le secteur de la restauration.
Bah, écoutez, justement dans le secteur de la restauration tout à l'heure. Un des témoignages dans le reportage d'Agathe Landais.
Quand vous vous absentez et que vous reveniez, clairement, vous preniez des remarques. Et puis, limite, c'était de l'intimidation. Tous les collègues, même les managers, ils vont soit venir et ça va être une journée dégueulasse pour eux parce qu'ils sont malades, soit ils préfèrent ne pas venir et pas aller chez le médecin.
Donc ça, c'est concret quand même. Jean-Luc Burga.
Tout de même, tous ceux qui se sentent, tous les salariés qui se sentent proches de la vie de l'entreprise, en général, effectivement, sont plus réticents. C'est l'exemple de Patrick qui quittait pas son journal, même quand il avait 42 fièvres. Bon, ça, c'est une chose. Mais moi, je voulais relever une autre chose qui je trouve sympa, c'est que les salariés français ont souvent une mauvaise image. Et ça, cette enquête prouve le contraire. Il y a des patrons allemands aujourd'hui qui viennent installer leurs entreprises en France, des Anglais aussi pour d'autres raisons, et parce que finalement, les Français travaillent bien. Les ouvriers français travaillent bien. Le respect de tout un tas de choses à l'intérieur de l'entreprise, c'est beaucoup mieux que ce qu'on leur raconte souvent en France.
Et même s'ils travaillent un peu moins qu'ailleurs, ils travaillent mieux.
Exactement.
Donc, c'est pas forcément une bonne chose de revenir travailler quand on n'est pas en état de travailler, parce que bon, après, effectivement, quand on est cadre, les questions de sécurité immédiate se posent pas, mais c'est vrai, quand on manipule du matériel, on se met en danger, on met aussi en danger les personnes avec lesquelles on travaille. Donc je pense que c'est aussi important de faire une éducation par rapport au fait que les médecins déterminent un nombre de jours d'arrêt qui correspond au temps de rémission, et que quand on est souffrant, on n'est pas censé travailler, c'est mauvais pour tout le monde. Le bilan à long terme, de toutes les façons, est mauvais pour toutes les personnes qui sont impliquées dans l'activité.
Écoutez quand même. Juste écoutez quand même, parce qu'il y a quand même la problématique des jours de carence qui ne sont pas payés au début, et c'est quand même un sujet. Écoutez tout à l'heure.
Les trois jours de carence, ça peut effectivement faire en sorte que les salariés ne prennent pas une ou deux jours, parce que forcément ce ne sera pas payé, donc ça leur fait du salaire en moins. Et le jour où ils ont une petite maladie, on prend un cachet d'aspirine si on a mal à la tête, peut-être on ne vient pas le matin mais on est là le soir, on ne va pas forcément sur un arrêt maladie.
Ça, c'est quand même une réalité.
Bien sûr, mais
on a vu avec les fonctionnaires commencer à poser des questions de supprimer les jours de carence.
Mais on peut aussi renverser l'argument. C'est-à-dire que quand on supprime le jour de carence, d'un seul coup, le taux d'arrêt de maladie change. Alors, la difficulté, c'est quoi? C'est tenir un discours général sur ce sujet.
C'est ça,
on sait bien que les arrêts maladie abusifs existent. On sait bien qu'il y a quand même parfois des pics avant les week-ends ou à des moments où il peut être intéressant de prendre un jour d'arrêt. Et pourtant, il y a des gens qui sont vraiment malades. C'est pour ça que c'est difficile de généraliser.
Mais quand on voit quand même la nature des arrêts maladie, on voit que c'est quand même beaucoup lié à des véritables questions de santé, parce que les gens qui ont entre 30 et 40 ans prennent très rarement des arrêts maladie ou des arrêts très courts, qui correspondent aussi souvent
liées
entre 30 et 40 ans.
Malakoff-Médéric, elle dit le contraire, celle de l'année dernière. Elle dit que c'est entre 30 et 39 ans que les gens prennent plus d'arrêts maladie,
mais courts,
ce qui est
de courte
analysé
durée,
comme étant une forme de défiance
de
par rapport à l'entreprise.
Pas seulement, c'est aussi lié, c'est l'âge, souvent on a des enfants qui sont petits, parfois on a besoin de ne pas être là pour pouvoir s'en occuper.
Donc en revanche, les gens qui sont plus âgés, c'est pas normal, ça veut dire qu'il y a un abus, ça veut dire qu'on s'occupe des enfants.
Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Vous connaissez le Manter Optime? Vous avez déjà entendu parler de ça? Je crois que je suis la personne qui a le moins parlé autour de la table.
Vous êtes rattrapé. Dans le premier quart d'heure, c'est vrai, non, mais après, vous êtes rattrapé. Okay. Mais
durée,
il reste 10 secondes.
En durée, en tout cas, juste, je voudrais terminer là-dessus. Et les gens qui sont seniors prennent souvent des arrêts maladie de plus longue durée. Je pense que c'est lié aussi à des conditions personnelles de santé où, effectivement, c'est pas seulement quelque chose qui est de l'ordre de l'abus.
Merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL.